Grâce à Seigneur.
À ce moment-là, Jésus disait à ses disciples cette parole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces. Ils prirent leur rang pour sortir à la rencontre de lui. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur rang sans apporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur rang des flacons d'huile. Comme il tout tardait, elles s'assoupirent toutes et sans doute. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur rang. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car vos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et crièrent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu.
Mes amis, je me souviendrai toujours d'un mariage que j'avais célébré à la cathédrale d'Ottawa en un samedi du mois de juin à 13h. D'habitude, comme vous le savez, dans nos mariages à nous, on ne veut pas voir la mariée avant qu'on commence la célébration, elle se cache. Alors le système à la cathédrale, c'est qu'elle était à l'extérieur, les portes étaient fermées toujours. Alors, 5 minutes étaient passées, rien ne se produisait en arrière de l'église. Alors j'ai signalé les personnes qui étaient avec moi, allez voir comment ça se fait que les portes ne s'ouvrent pas, comment ça se fait que la mariée n'entre pas. Alors je vais apprendre après qu'elle n'était pas encore là. Ça va prendre 30 minutes. Mais avant cela, quand j'ai vu que ça traînait, le fiancé commençait à transpirer, moi aussi, ça ne veut pas que ça allait se passer. Alors j'ai dit, ce qu'on va faire, prions. Et puis, en demandant au Seigneur que les choses soient arrangées, on a récité « Je vous salue Marie, le Notre Père ». Mais croyez-moi, on a fini de prier, les portes sont ouvertes et la mariée est entrée avec son cortège de filles d'honneur. Si je vous raconte cela, si ce souvenir m'est revenu, c'est qu'en lisant l'Évangile, je me suis rendu compte que notre Seigneur puise dans sa culture, dans la manière avec laquelle on célébrait le mariage pour donner son enseignement. Alors regardez, nos mariages à nous aujourd'hui sont basés sur l'heure. Quand tu vas te marier, il faut dire aux autres c'est à telle heure. Mais ce n'était pas le cas dans le temps de Jésus. On s'est marié la nuit, d'accord, mais tu ne savais pas exactement à quelle heure. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas de garçon d'honneur. C'était ce qu'on appelle les vierges, hein? C'était des filles d'honneur qui accompagnaient le cortège. Voyez-vous? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour le mariage? Alors, le mariage au temps de Jésus, ça s'est passé de cette manière-ci. Mettons que de ce côté-ci, nous avons la maison paternelle, le fiancé vit avec sa famille. Le mariage se passe dans la maison paternelle. Mais seulement, le fiancé, le jour du mariage, le soir, doit quitter sa maison, aller, mettons ce côté-ci, dans la famille de la fiancée, ses parents. Là, il doit continuer encore le contrat, s'entendre comment les choses doivent se dérouler. Alors, ce que le Seigneur raconte, c'est que ce soir-là, cet homme a quitté sa maison, le jour de son mariage, pour aller prendre sa femme, sa fiancée, et ensuite aller retourner chez son père, chez ses parents, pour célébrer le mariage. C'était le soir. Maintenant, quand il arrive dans la famille de la fille, mais les choses se compliquent. On ne sait pas comment ça va se passer. Il y a le contrat encore à traiter, les questions à poser, il y a des choses encore à résoudre. Alors, vous ne savez pas à quelle heure le fiancé et la fiancée vont sortir pour aller célébrer le mariage. Vous ne savez pas. Alors, c'est le cas. Alors, ce que le Seigneur raconte se passe à l'extérieur. Parce que les vierges attendent que et la femme et l'homme sortent, comme ça dans le cortège avec les lampes, ils les amènent dans la famille du mari où va se célébrer le mariage. Maintenant, tout se passe comme je l'ai dit ici. C'est qu'elles attendent. Elles attendent, la porte ne s'ouvre pas. Finalement, elles se fatiguent, elles s'assoupissent, elles s'endorment. Maintenant, la question, c'est de dire, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ? Où se trouve ce qu'on dit la pointe de la parabole ? La signification de la parabole, où se trouve-t-elle ? Où se loge-t-elle ? Ce n'est certainement pas sur le thème de la vigilance, parce que elle est vierge sage, elle est vierge insouciante, s'endorment toutes. Voyez-vous ? Il y a beaucoup de ressemblances entre les insensés et les sages. C'est tellement que les deux groupes ont été choisis par les deux mariés pour être dans le cortège. Tu ne choisis pas n'importe qui pour être dans le cortège le jour de ton mariage. Alors, c'est que les deux groupes, il y a beaucoup de similitudes dans les deux groupes. Ils s'endorment et c'est tellement qu'elles portaient les mêmes habits. Elles ont les lampes. Pareil, pareil. Et même, nous ne pouvons pas dire que la pointe se trouve sur l'oubli. L'accent n'est pas sur l'oubli. Regardez, c'est très humain. Nous autres là, même quand nous organisons un pique-nique familial, on peut se retrouver, on arrive à l'endroit, « Oh, j'ai laissé la salade dans le frigo, alors que j'avais pensé que je l'avais mis dans l'autre. J'ai laissé mon porte-monnaie, comment ça se fait ?» Donc, ça, c'est ce qui peut arriver. Alors, les vierges, les insensés, se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas leur réserve d'huile. Mais la question, la pointe, se trouve sur la signification de la réserve d'huile. On peut se poser la question, c'est quoi ? Une chose est sûre, c'est que la réserve d'huile, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Ce n'est pas quelque chose que tu peux prendre et tu donnes. La réserve d'huile est inscrite dans notre propre intérieur, dans notre fort intérieur. En fait, c'est notre capacité intérieure, c'est notre force intrinsèque, c'est ce qui se trouve au-dedans de nous, ce que nous avons bâti après des années et des années à partir de notre expérience avec Dieu, ce que nous avons construit en nous qui a forgé notre caractère, qui a forgé notre personnalité et qui nous permet de réagir quand arrive l'inattendu, quand arrive le moment d'urgence, quand arrive l'imprévu. Voyez-vous ? Parce que finalement, ce qui va démarquer les vierges sages et les insensés, c'est comment ils répliquent, comment ils ont le réflexe quand on crie et on dit que l'époux sort. Tout se réveille, encore une fois, à ressemblance. Mais là, un groupe sait ouvrir, sait allumer les lampes, l'autre pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas amené assez de réserves. Donc, la parabole se trouve sur la prévoyance, sur la prudence, sur la préparation. Voyez-vous ? Alors, quand on s'est préparé, quand on a vécu une expérience dans la vie, on a construit son fort intérieur, alors on sait réagir. Regardez, le fait de prendre la lampe et qu'on se promène, on fait la procession, ça peut évoquer aussi le fait de faire profession de sa foi, annoncer sa foi. Mais alors, si tu n'as pas assez d'huile, c'est que ta profession peut être là, mais sans sincérité. Tu peux dire ta foi au Christ, il n'y a pas de fondement. Donc ta foi peut rester au niveau de la peau, peut être superficielle. Alors quand arrive l'imprévu, quand arrivent les humiliations, quand arrive le rejet, tu t'effondres. Parce qu'il n'y a pas de racines, il n'y a pas de profondeur dans ta foi. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est bâtir notre intérieur, notre foi, à partir de nos relations avec Jésus. La messe à laquelle nous assistons, nos eucharisties, nos sacrements, nos méditations, nos prières, nos actes de charité, notre bienveillance, notre compassion. Alors cela, ça construit notre intérieur. Regardez cet exemple. C'est la fin de semaine de jour du souvenir. Nous avons mis le beau drapeau, notre drapeau, et puis aussi la couronne pour appeler cet événement-là. Et puis même dans les journaux, ils continuent à insister sur la bataille de Passchendaele en Belgique. Maintenant, ça fait le centenaire. Alors cette bataille-là, les Canadiens sont sortis victorieux, mais c'était difficile, c'était très sanglant, comme vous le savez. Mais maintenant, si les Canadiens ont vaincu, ce n'est pas au moment où ils se battaient, quand c'était difficile, qu'ils ont commencé à chercher comment s'en sortir. C'est parce qu'ils étaient déjà bâtis, construits, ils étaient déjà préparés sérieusement avec leur amour du Canada, avec leur amour de la liberté, avec leur souci, le désir de voir supporter, aider l'Europe, la Belgique, la France et l'Angleterre. Alors c'est toute cette motivation-là qui les a pris à partir de leur trip et qu'ils ont foncé et finalement ils ont gagné la guerre. Ils étaient déjà préparés intérieurement. Hier, je recevais une famille, c'était de mes anciens paroissiens, ils étaient 6. Alors le père était là aussi parce qu'en fait le père venait de perdre son épouse, les enfants étaient là aussi. Alors le père, comme témoignage, il me disait en tout cas, il admirait beaucoup son épouse parce qu'elle a passé 5 ans de souffrance avec le cancer, c'était des moments très difficiles. Et lui me disait, il ne comprenait pas comment son épouse Charlotte arrivait toujours à dépasser les souffrances. Elle ne se plaignait jamais de tous les traitements qu'elle recevait, des douleurs, rien. Elle était courageuse, souriante, et puis elle nous donnait de la force. Quand ils sont partis et que j'ai préparé l'homélie, je me suis dit non. Charlotte, là, avait une force intérieure très remarquable. C'est quand l'inattendu arrive, quand on t'annonce que tu as une maladie foudroyante, c'est à ce moment-là que ton intérieur réagit. C'est à ce moment-là que tu as besoin de ta réserve d'huile. Voyez-vous. D'ailleurs, après la prédication hier soir, une personne de notre paroisse vient m'aborder et me dit, sais-tu, l'évangile d'aujourd'hui est venu tellement me chercher, me disait la personne. Elle dit, pourquoi? Parce que je suis en train d'attendre le pronostic de mon médecin. Et j'ai peur que ça soit fatal. Mais là, avec tout ce que j'ai entendu, ça me prépare aussi à accueillir ce que je vais recevoir à partir de ma foi au Christ, à partir de mon attachement au Christ. Mes amis, l'épreuve, l'imprévu, c'est ce qui révèle qui nous sommes à partir de notre intérieur. Ce n'est pas quand le moment arrive que tu vas commencer à aller chercher des lectures dans les livres, aller consulter les psychologues. Quand le moment arrive, c'est le moment qu'il faut réagir. Mais on ne réagit pas n'importe quelle manière. On réagit à partir de nos convictions, à partir de notre foi, à partir de l'intérieur que nous avons bâti durant toute cette année, toutes ces années que nous avons passées. À ce moment-là, on sait réagir. Alors, ce qu'on va demander au Seigneur, c'est de nous donner cette grâce-là, de pouvoir bâtir un intérieur fort dans nos relations avec lui, que nous soyons ancrés en Dieu, que nous soyons des personnes solides intérieurement et que nous soyons en mesure de faire face à n'importe quelle situation, pas seulement par nous-mêmes, mais grâce au Seigneur et grâce à l'aide qu'on a reçue pour construire notre conscience, pour construire notre fort intérieur. Maintenant, la question que je me suis posée en lisant la parabole, d'ailleurs, je me suis rappelé de cette histoire qui est venue de Boston. On dit qu'il y a une personne bien connue de la ville de Boston, que les gens connaissaient, qui avait une belle maison au centre-ville. Et dans sa maison, il y avait cette belle sculpture en marbre qui représentait l'évangile d'aujourd'hui. La sculpture n'a pas représenté les 10 vierges, elle a représenté seulement 2, une sage et une insensée. Alors, qu'est-ce que la sculpture fait? On présente la vierge sage comme à genoux, en train de préparer pour allumer sa lampe. Elle s'est préparée pour allumer sa lampe. À côté d'elle, la vierge insensée, avec les mains tendues, qui supplie, on voit le visage qui supplie, qui a pitié, qui demande de l'aide, donne-moi un peu d'huile. Voyez-vous? Alors, un auteur anglais, qui souvent écrit des livres, se rappelle qu'il a visité cette maison-là. Là, il dit, quand j'ai vu cette sculpture-là, cette œuvre artistique, il s'est dit, mais comment ça se fait que la Vierge sage n'a pas pu donner un peu d'huile à son ami pour qu'elle puisse allumer la lampe? Alors, moi aussi, en lisant, je dis, tiens, peut-être. Mais en fait, la pointe de la parabole n'est pas là. Il ne s'agit pas de partage. En fait, c'est quoi? On peut poser la question, la réserve d'huile. La réserve d'huile, c'est pas quelque chose d'extérieur, encore une fois. La réserve d'huile, c'est quelque chose que nous avons, que nous ne sommes pas en mesure de donner, de partager. Regardez, si je trouve une personne qui a vraiment du bon sang, on dit, celui-là, il a vraiment du bon sang. L'autre là, pas beaucoup de bon sang. Et je ne vais pas dire à celui-là, peux-tu donner un peu de ton bon sang à l'autre qui n'en a pas? Moi là, j'ai beaucoup de générosité. Est-ce que je peux prendre ma générosité et aller donner à l'autre qui n'en a pas assez? Moi là, il dit ça dépend. Alors moi là, alors voilà, je me dis, ben, regardez, vous et moi, nous souffrons aujourd'hui, nous disons que la génération qui est derrière nous semble indifférente vis-à-vis de la foi, vis-à-vis de notre pratique chrétienne. Et moi, je suis le premier aussi à souffrir. J'ai mes neveux, mes nièces, du moins quelques-uns, qui ne pratiquent pas du tout. Alors moi, je ne peux pas me lever aujourd'hui. Oh, je prends ma foi, je donne à mes neveux. Point, point, point. Impossible. Ça, c'est la réserve d'huile qu'on ne peut pas donner, qu'on ne peut pas partager. Par contre, on peut la bâtir. Ce que nous pouvons faire, c'est prier pour nos neveux, prier pour nos jeunes, prier pour nos enfants, pour que le Seigneur touche leur cœur, pour que le Seigneur transforme leur cœur. Mais nous ne pouvons pas donner notre courage, notre sincérité, notre compassion. On ne peut pas partager. C'est impartageable, si je dois m'exprimer ainsi. Alors, c'est ça, au fait, qu'on peut demander au Seigneur qu'il touche le cœur des personnes que nous aimons. Mais ce qui m'a intrigué aussi, c'est de savoir comment ça se fait que, quand les vierges quittent la place de la fiancée et en procession, ils vont pour célébrer le mariage, ils sont entrés, la porte est fermée. Les insensés sont partis acheter l'huile, les insensés arrivent, elles frappent. Le maître de maison dit, c'est trop tard, vous ne pouvez pas entrer. Alors là, quelqu'un peut dire encore, mais le Seigneur Dieu, oui, mais ouvre la porte, les personnes sont venues quand même se repentir. Hein? Encore une fois, la pointe de la parabole n'est pas là. Mais en fait, c'est quoi la porte fermée? La porte fermée veut tout simplement dire que dans la vie, il y a des fois, on a des opportunités une fois pour toutes. Quand l'opportunité est passée, c'est fini. Regardez, nous sommes en train de célébrer cette messe-là de 11h. Dès qu'elle est finie, elle est finie. On ferme la porte. On ne peut plus rouvrir pour la recélébrer, cette messe-ci. Alors, nous avons des occasions dans la vie où tu es appelé à poser un geste de charité. Dès que l'occasion passe, c'est fini. Nous allons en trouver une autre, puis en avoir. Mais il y a des opportunités qui n'arrivent qu'une fois dans la vie et c'est fini. Vous, c'est passé. Alors, c'est ça, la porte est fermée. Regardez, vous et moi, le jour où nous allons mourir, nous allons arriver chez Dieu, eh bien la porte est fermée. Tu ne vas pas dire, Seigneur, donne-moi encore le temps, je vais retourner dans la vie, je vais essayer de m'arranger pour faire mieux. Non, 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 la porte est fermée. L'opportunité est passée. Voyez-vous? Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'il faudrait saisir les choses. Alors moi, je me propose, vous et moi, que nous prions aujourd'hui pour que, quand on va entendre le cri, l'époux arrive. Eh bien, qu'à partir de notre fort intérieur, à partir de nos convictions, à partir de notre foi chrétienne, que nous puissions réagir comme il se doit devant l'imprévu, devant la crise, devant la maladie, devant la perte d'un être cher, que nous puissions agir avec la foi, avec cette relation qu'on a bâtie durant des années avec le Seigneur. Alors que la messe d'aujourd'hui nous aide, surtout l'Eucharistie que nous allons recevoir, qu'en sortant d'ici aujourd'hui, que notre intérieur deviennent encore plus forts que jamais. Amen.